tout d'abord la bénédiction de Dieu sur cette heure. Ô toi qui es notre Père en Jésus-Christ, par la toute-puissance de ton Esprit, nous venons te demander humblement que tu nous révèles le visage de ton Fils, de ton bien-aimé, et que tu parles à tous nos cœurs, et que nos cœurs ne soient pas rebelles au message que tu veux nous donner ce matin, dans ta grâce, dans ton amour, pour notre bonheur et le bonheur aussi de tous ceux que nous côtoyons. Exauce-nous dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, en ce matin du 9 février 1985, nous allons donc nous plonger dans l'étude du livre de Jonas, et ce matin en particulier, nous arrêterons au chapitre 1er. Je voudrais tout d'abord vous rappeler que chez les Juifs, le livre de Jonas est lu en entier à l'office de l'après-midi de la fête du Yom Kippour, qui est la fête où l'on se souvient du pardon que Dieu accordait à Israël. Et chaque année, au Yom Kippour, dans l'office de l'après-midi, on lit le livre de Jonas. C'est assez remarquable, nous aurons l'occasion de voir pourquoi. Je ne sais pas quelles ont été vos expériences dans cette matinée, dans ce premier tête-à-tête avec le Seigneur en lisant le chapitre premier de Jonas. Nous avons dit hier soir que nous voulions lire cette parole avec un cœur d'enfant. Et ce n'est pas un grand discours que je vais vous faire, mais nous allons nous arrêter simplement en nous questionnant. La parole de l'Éternel fut adressée ou vint à Jonas. Prenons d'abord la parole de l'Éternel. Une première question peut se poser à nous, mais qui est l'Éternel ? Qui est l'Éternel? C'est bien ce qu'a dit le Pharaon, mais personne ici, je pense, ne ressemble au Pharaon. Quand Moïse est venu trouver le Pharaon pour la première fois dans le chapitre 5 de l'Exode, et qu'il lui a dit que l'Éternel commandait de laisser aller son peuple d'Égypte pour qu'il le serve, vous connaissez la réponse du Pharaon. Qui est l'Éternel? Pour que j'écoute sa voix. Je ne connais pas l'Éternel. Qui est l'Éternel? Pour que j'écoute sa voix. Exode 5, verset 2. Mais Jonas n'est pas le Pharaon. Jonas est un Israélite, comme vous le savez. Et Jonas est dans la succession des prophètes, tels que Élie et Élisée. Et vous vous souvenez que Élie, sur la montagne du Carmel, devant 400 prophètes de Baal, avait invoqué l'Éternel. Il avait sommé le peuple d'Israël en lui disant, choisissez qui vous voulez servir. Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, le faux dieu, donc l'idole, eh bien, courez après lui. Mais il faut faire un choix. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Il faut que nous choisissions. Si l'Éternel est Dieu, nous devons le suivre. Mais quand Élie a dit, choisissez qui vous voulez servir, si l'Éternel est Dieu, suivez-le, si c'est Baal, courez après lui, qu'est-ce que le peuple a répondu? Rien. Alors, j'espère que vous n'imiterez pas le peuple. Parce que Élie a donc dû continuer d'exhorter le peuple. Et finalement, quand les prophètes de Baal ont manifesté qu'ils avaient un Dieu qui ne répondait pas par le feu, Élie a invoqué le Seigneur. Et immédiatement, le feu est tombé sur l'autel d'Élie et sur le sacrifice. Et alors, qu'est-ce que le peuple a crié ? C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce qu'il faudra que vous connaissiez de ces événements extraordinaires pour admettre que c'est l'Éternel qui est Dieu ? Bien, nous espérons qu'il n'en sera pas ainsi pour vous. C'est l'Éternel qui est Dieu, vous en êtes déjà convaincus. Alors maintenant, si on sait qui est l'Éternel, que l'Éternel est le seul vrai Dieu, nous posons une question. Alors, qu'est-ce que c'est que sa parole, la parole de l'Éternel ? Vous allez voir comment on peut se nourrir de l'Écriture. Je suis toujours désolé d'entendre une foule de personnes qui nous disent que dans leurs églises, ils ne sont pas nourris. Mais comment, vous-même, lisez-vous la parole ? Vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour vous nourrir. Vous ne voulez pas quand même être toujours au biberon ? Vous n'avez pas besoin des homélies de votre curé pour être nourri. Vous avez la possibilité de lire la parole de Dieu vous-même et de recevoir dans vos cœurs un enseignement. Et alors, vous-même, au lieu d'avoir toujours faim, vous irez donner à manger, parce que vous aurez reçu et vous vous porterez bien. Qu'est-ce que cette parole ? Bien là, on pourrait parler des heures sur ce qu'est la parole. La parole, nous dit le psaume 119, verset 120, c'est une lampe. Donc, la parole est claire, c'est une lampe à nos pieds, c'est une lumière sur notre sentier. Il y a tant de gens qui cherchent leur chemin, comme s'ils n'avaient pas la parole de l'Éternel comme lampe pour éclairer leurs pas. C'est une lampe, c'est une lumière, avons-nous vu. Mais c'est aussi une semence qui, jetée dans nos cœurs, germe, opère, produit. Un fruit. Elle est aussi comparée à un feu, nous l'avons souligné hier soir. Ta parole n'est-elle pas comme un feu ? Un feu qui s'allume dans nos cœurs. Au contact de la parole, eh bien, notre cœur commence à brûler. C'est tellement vrai, cela, que quand Jésus expliquait les choses qui le concernaient dans toutes les Écritures, dans tout l'Ancien Testament, aux disciples d'Emmaüs, les disciples d'Emmaüs s'écrient, après l'avoir reconnu dans la fraction du pain, chapitre 24 de Luc, « Notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous expliquait les Écritures ?» Donc, la lecture de la parole de Dieu ne doit pas être quelque chose de desséchant, c'est quelque chose de brûlant. Ça brûle, ça ne dessèche pas, mais ça brûle vraiment, et ça réchauffe. Et elle n'est pas seulement un feu, cette parole, elle est aussi une pluie. On pourrait continuer cette méditation, hein, si nous nous arrêtons. Qu'est-ce que c'est que cette parole ? Elle est une pluie, elle est une rosée, donc elle rafraîchit, et puis elle aide à faire germer la semence, à faire croître. Vous avez ça dans chapitre 32 du livre du Deutéronome. La parole, ta parole est une pluie, est une rosée. Bien, j'espère que, à l'écoute de la parole de Dieu, vous allez être rafraîchis, vous allez être bénis. Mais, je prends un septième aspect de la parole est aussi un marteau. C'est dans Jérémie, chapitre 23, elle est un marteau. Est-ce que la parole devra être un marteau parmi nous aujourd'hui? Un marteau, ça sert à quoi? À briser. Ta parole n'était pas comme un marteau qui brise le roc. Vous êtes peut-être venu ici sans le vouloir, mais vous êtes venu avec votre cœur, puis vous avez réalisé que votre cœur était un peu un cœur de pierre. Hein. Je suis venu ici, mais j'étais froid, ou j'espère être réchauffé, mais si votre cœur est un cœur de pierre, il faudra que la parole prie, que que la parole de Dieu brise ce roc, cette pierre qu'est votre cœur, mais elle a cette puissance. La parole de l'Éternel, on peut méditer sans fin là-dessus. Et cette parole, nous dit l'Écriture, vous pouvez être sûr qu'elle aura un accomplissement. Il est dit que cette parole ne retourne pas à Dieu sans avoir produit le pourquoi il l'a envoyé. C'est au chapitre 55 d'Ésaïe, verset 11e. Une des caractéristiques de la parole de l'Éternel, c'est qu'elle s'accomplit. Ne vous figurez pas que la parole de Dieu ne s'accomplit pas. Elle s'accomplit soit en bénédiction, soit en jugement. On ne se moque pas de la parole de Dieu. Soyons donc des gens sérieux. La parole de l'Éternel. Elle fut adressée, ou elle vint à qui ? À Jonas. À qui est-ce que Dieu parle dans sa création ? Et vous avez vu, il parle aux oiseaux. Vous le saviez ? Il parle aux oiseaux, les corbeaux obéissent, les corbeaux écoutent, les corbeaux vont à leur destination. Ils disent, oh, c'est ennuyant d'aller au torrent du Kérit. Où est-ce que c'est ? Les corbeaux connaissent la géographie. Mais nous, on est pire que les corbeaux. Eh bien, souvenez-vous des corbeaux qui savent quel chemin ils doivent suivre. Et puis, ces corbeaux, je trouve que c'est quand même fantastique. Ils apportent de la nourriture à Élie sans la manger. Nous, quand on était enfant et qu'on allait acheter quelque chose, souvent on apportait, on avait déjà goûté. On se faisait corriger, bien sûr. Les corbeaux, eux, ils accomplissent ça d'une façon très fidèle. Bon. Et il ne parle pas seulement aux corbeaux, il parle aux lions, on l'a vu, il parle aux poissons, mais surtout, il parle aux hommes. Il parla, il vint à, cette parole vint à Jonas. Dieu nous connaît par nos noms. Je ne sais pas quelle est la signification de vos noms, mais dans l'Écriture, tous les noms ont une signification. Vous savez ce que veut dire Jonas ? Colombe, hein, pas corbeau. Colombe. Alors, ça nous fait penser tout de suite à la colombe de Noé, de l'arche, et qui sait revenir aussi à son arche. Le mot Jonas, c'est colombe. Alors, Dieu parle à ce Jonas. Donc, nous avons un Dieu, le Dieu vivant, le vrai Dieu, c'est un Dieu qui parle. Et c'est tellement vrai. Reprenez depuis la Genèse. Il a parlé à qui ? À Adam, au premier homme. Il lui a parlé. Il a parlé même à Caïn, le fils d'Adam. Il lui a parlé. Et nous aurons l'occasion de revenir sur ce qu'il a dit à Caïn. Et nous verrons des ressemblances entre Caïn et ce Jonas. Il a parlé à Caïn pour l'éloigner de son mauvais chemin. Il a parlé à Noé. Noé a obéi. Il a parlé à Abraham, en particulier. Il a parlé à Moïse. Mais il a parlé aussi à un enfant. Vous vous souvenez ? Un jeune enfant dans le temple, à Samuel. Donc, il ne fait exception de personne. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Il a parlé à Élie, qui se tenait devant l'Éternel. Mais alors vous me direz, oui, ben ça c'est bien beau de dire ça. La parole de l'Éternel vint à Jonas. Moi je voudrais bien entendre la parole de l'Éternel, mais moi j'entends rien. J'ai été dans ma chambre, j'ai lu cela, j'ai écouté, mais j'ai pas entendu sa voix. Attention. Vous n'avez rien entendu dans votre cœur ? Parce que si Dieu ne parle plus comme il a parlé autrefois, spécialement à ces hommes, vous savez pourquoi ? Pourquoi on se plaint, on parle même maintenant du silence de Dieu ? Il y a toute une théologie au sujet du silence de Dieu. Qu'est-ce qui a voulu que Dieu se taise ? Vous vous souvenez ? Dieu a parlé sur le Sinaï, une montagne que vous pouvez visiter. Et il a prononcé les 10 paroles avant qu'elles soient écrites sur des tables de pierre. Il les a prononcées
au sommet de la montagne dans le feu, et on a entendu des hommes, des humains ont entendu sa voix. Quel peuple que ce peuple d'Israël! Il peut dire aux nations, nous avons entendu sa voix, ils peuvent dire le lieu où ils ont entendu cette voix. Puis quand ils l'ont entendu, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Nous avons peur. Ils ont été effrayés. Et ils ont demandé à Moïse de dire à Dieu, ne nous parle plus, mais parle à Moïse. Et toi, Moïse, tu viendras nous dire ce qu'il t'a dit. Parce que nous, nous avons peur de mourir, simplement en entendant la voix de Dieu. Alors, Dieu a exaucé ce désir du peuple, et il a parlé à Moïse, et Moïse transmettait les paroles. C'est ainsi que vous avez les paroles par les prophètes, par un intermédiaire, les prophètes. Mais Dieu désirait parler aux hommes directement, et il sait parler, et aussi, pas seulement d'une voix forte, mais avec une douceur telle qu'on pourrait penser que c'est vraiment la voix d'une mère. Comme je dis souvent, Dieu est un père au cœur de mère. Alors, ce Dieu parle et puis il sait à qui il parle. Il connaît les hommes. Il sait qui est notre père. Jonas, il est le fils de qui? D'Amittai. Et alors, on se demande tout de suite, mais qu'est-ce qu'on peut savoir au sujet de ce Jonas? Alors, nous l'avons lu hier soir, 2 Rois, versets 14 à 25. Je ne vous le relis pas, mais vous replacez Jonas dans son temps. Il vivait au temps de Jéroboam II, qui était roi d'Israël, de ses 10 tribus qui s'étaient séparées des 2 tribus de Juda et de Benjamin après le règne de Salomon qui avait péché contre l'Éternel, et hélas les 12 tribus se sont divisées, 10 sont allées avec un certain Jéroboam, ennemi de Salomon, et la capitale de ces 10 tribus s'appelait comment? Samarie. La ville de Samarie était la capitale des 10 tribus. Alors, séparés donc de Juda et de Benjamin, c'était à Jérusalem qui était la capitale donc des 2 tribus, restés fidèles à la descendance de David et de Salomon. Dans ce pays séparé du temple, puisque le temple était à Jérusalem, Dieu, dans sa grâce et son amour, a suscité des prophètes, des hommes qui étaient les siens, des hommes de Dieu, tel un Élie, tel un Élisée. Et il y a eu ce Jonas, qui est appelé serviteur du Dieu d'Israël et prophète. Et même son lieu, sa résidence, parce que Dieu connaît le lieu que nous habitons, nous apprenons dans ce texte que c'était à Gath-Hépher. Nous en avons parlé hier. Quand on lit l'Écriture, on apprend que Gath-Hépher était dans le territoire de Zabulon, ce territoire que Josué avait donné à cette tribu, Josué 19, verset 13, et ce Gath-Hépher se trouve donc au nord de Nazareth, en Galilée. Donc il y avait un prophète qui venait de Galilée. Ce qui montre que les pharisiens, les docteurs de la loi du temps de Jésus, étaient des ignorants malgré leur doctorat. Car qu'est-ce qu'ils ont dit à Nicodème qui prenait la défense de Jésus? Ils lui ont donné un brevet d'ignorance. Ils lui ont dit, regarde seulement, si un prophète a été suscité en Galilée. Mais il y en avait un, c'était Jonas. Mais eux, ils étaient tellement sûrs qu'il n'y avait pas de prophète suscité en Galilée, qu'ils disent, là, vous avez ça au chapitre 7 de Jean, verset 52, est-ce qu'il y a un prophète qui serait
venu de Galilée. Donc, on peut prétendre connaître les Écritures et être des ignorants. Alors, ce titre de prophète, maintenant, pour savoir un peu qui est Jonas, il est bien confirmé par Jésus. Nous ne revenons pas sur ces textes, mais je les cite. Matthieu 12, 38 à 41 et Luc 11, versets 29 à 32, nous apprenons donc que Jésus reconnaissait Jonas comme un prophète. Il l'appelle le prophète Jonas. Donc, il vivait au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et toujours dans ce livre des Rois, dans le texte qui concerne Jonas, on apprend que Jonas avait été employé pour annoncer une bonne nouvelle au peuple de ce royaume du Nord qui était extrêmement malheureux. Et qu'il avait même, Dieu dans son amour, employé un roi qui était un idolâtre pour reconquérir plusieurs villes qui avait été conquise par l'ennemi. Donc Dieu, dans son amour, peut même employer un homme qui ne l'honore pas pour accomplir ses desseins. Dieu n'emploie pas seulement des justes pour accomplir ses desseins. Comme il fait tomber sa pluie aussi bien sur les méchants que sur les justes, il peut même employer un méchant pour accomplir ses desseins en vue du bien qu'il veut faire à un peuple misérable. Il peut même employer un roi impie pour faire du bien au bas peuple. Souvenez-vous de cela. Et Jonas avait été heureux de voir sa prophétie réalisée, parce qu'il avait annoncé que Dieu redonnerait ses villes perdues au royaume d'Israël, et il avait vu que sa prophétie, ce qu'il avait annoncé, s'était accompli, parce que Dieu avait eu pitié du peuple. Et ça, Jonas le savait. Jonas savait que Dieu est un Dieu de compassion, un Dieu qui a pitié de son peuple, même d'un peuple qui marche dans l'infidélité, parce que Dieu est bon. Jonas, donc, connaissait la bonté et la miséricorde de Dieu. Et il avait été heureux d'annoncer à ce peuple une bonne nouvelle et surtout de voir cette parole s'accomplir. Il était donc un vrai prophète, parce qu'un prophète, on le reconnaissait, on savait qu'il était un vrai prophète, on le reconnaissait à quoi? Si ce qu'il avait annoncé s'accomplissait, hein. Alors, vous allez comprendre bien des choses, déjà, quand vous vous arrêtez à cela. Un vrai prophète, sa parole s'accomplissait. Mais si sa parole ne s'accomplissait pas, on pouvait penser qu'il était un faux prophète. Alors, souvenez-vous toujours de cela, au fur et à mesure que vous allez lire cette histoire. Donc, successeur d'Élie et d'Élisée. Mais alors, on se demande, mais qu'est-ce que c'était qu'un prophète? Si vous voulez savoir vraiment ce que c'était qu'un prophète, il faudrait lire, parce que je voudrais uniquement vous montrer comment on doit lire la parole et comment on apprend quelque chose de la parole. La parole s'éclaire par la parole. Vous n'avez pas besoin de prendre un dictionnaire nécessairement pour voir qu'est-ce que c'est qu'un prophète. Alors vous prenez le Larousse, vous trouvez ce que c'est qu'un prophète. Mais si vous prenez le vrai dictionnaire, la Bible par la Bible, vous apprenez dans 1 Samuel, chapitre 9, verset 9. 1 Samuel. Autrefois, en Israël, un homme, quand il allait consulter Dieu, disait ainsi, « Venez, allons vers le voyant, car celui qu'on appelle prophète aujourd'hui se nommait autrefois voyant. » C'était un homme de Dieu, un homme qui vivait près de Dieu. On l'appelait au début voyant, parce qu'il avait des révélations. Et on le consultait et il donnait une parole de la part de Dieu. Là, on a une définition déjà un peu d'un prophète. Et au verset 6 de ce même chapitre, il est dit du prophète, « Voici
je te prie, il y a un homme de Dieu dans cette ville, et c'est un homme considéré. Donc, vous voyez, un prophète, c'était un homme considéré. Tout ce qu'il dit arrive infailliblement. Ça, c'est le caractère du vrai prophète. Ce qu'il déclare, et cela arrive infailliblement. Voilà qui jette de la lumière, déjà, sur ce qu'est un prophète. Et on veut écouter Dieu lui-même nous parler au sujet du prophète. Alors, je prends Nombre, chapitre 12, dans le conflit qui oppose Aaron et Marie à Moïse. C'est pourtant un conflit de famille, entre frères et sœurs. Ils sont jaloux de Moïse, la position de Moïse. Verset 2 du chapitre 12 des Nombres. Ils viennent et ils disent à Moïse, « L'Éternel n'a-t-il parlé que par Moïse seulement ? N'a-t-il pas parlé aussi par nous ?» Et l'Éternel l'entendit. Donc Dieu a des oreilles. Attention à ce que nous disons des autres. À ce que nous disons de notre frère ou de notre sœur. Et cet homme, Moïse, était très doux. Est-ce que ça nous caractérise ? Plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. Et soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, « Sortez, vous trois, vers la tente d'assignation. » Et ils sortirent, eux trois. Et l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Et il appela Aaron et Moïse, et ils sortirent, eux deux. Et il dit, « Écoutez mes paroles. S'il y a un prophète parmi vous, moi l'Éternel, je me ferai connaître à lui en vision. Je lui parlerai en songe. » Alors vous voyez comment Dieu se révélait au prophète. Soit par un songe, soit par une vision. Mais il dit, « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle sur toute sa maison. » Comment lui parlait-il ? Exceptionnellement, là, je lui parle bouche à bouche, en me révélant clairement et non en énigme, et il voit la ressemblance de l'Éternel. Voilà donc des versets qui jettent de la lumière sur ce que un prophète. Et encore un texte où c'est Dieu lui-même qui explique ce que c'est qu'un prophète. Chapitre 7 de l'Exode, verset 1er. Quand Moïse discute avec Dieu en disant, « Mais moi, je ne sais pas parler. Pour aller vers le Pharaon, ça sera trop difficile. Je suis un homme qui a les lèvres pesantes, la langue pesante, je ne sais pas parler. » Alors Dieu, pour finir, se fâche avec Moïse et lui dit, « Eh bien, puisque tu ne veux pas y aller, puisque tu penses que moi, je ne pourrais pas mettre mes paroles dans ta bouche et te faire parler, est-ce que ce n'est pas moi qui ai fait une langue à l'homme ? Bien, tu vas prendre Aaron, ton frère. » Et au chapitre 7 de l'Exode, l'Éternel lui dit, « Vois, je t'ai fait Dieu pour le Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Donc, un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit une parole d'un autre. Il reçoit une parole de Dieu, le prophète de l'Éternel. Et Moïse, là, Dieu nous dit qu'il l'a fait Dieu. Donc, Moïse a la parole du Seigneur et puis il la transmet à Aaron. Mais qui est-ce qui parle au Pharaon ? C'est Aaron. Hein ? C'est Aaron. Mais la parole d'Aaron n'est pas la parole d'Aaron, c'est la parole de Moïse qui est en même temps la parole de Dieu. Alors, vous voyez un peu comment pouvaient se transmettre les paroles d'un prophète. Alors, si nous lisons l'Écriture, nous voyons qu'il y a eu plusieurs prophètes. Le premier qui est appelé prophète dans la Genèse, c'est qui ? Abraham, chapitre 20. Abraham était prophète. C'est Dieu lui-même qui dit cela à Abimélec. Abraham est un prophète. Hein? C'est-à-dire, je lui parle, je parle par lui. Et puis, c'est lui qui priera pour toi, car il est prophète. Mais avant Abraham, est-ce qu'il y avait eu déjà des prophètes ? Oui, Enoch, hein. Il n'est pas dit cela dans le chapitre 5 de la Genèse, mais il y a le récit d'Enoch dans le chapitre 5 de la Genèse. Mais vous vous souvenez, la dernière retraite qu'on a eue ici sur l'épître de Jude, on a vu que Enoch prophétisa. Donc, avant le déluge, il y a eu des prophètes, en particulier Enoch. On a ça dans Jude, verset 14. Alors, un prophète, vous le comprenez maintenant, c'était au fond la bouche de Dieu. Et il devait être entièrement disponible pour Dieu, il devait lui obéir. Et je vous ai cité, et vous pourriez relire ce chapitre, et vous verrez que vous en aurez de la nourriture. Ce chapitre 13 du premier livre des Rois, où il est parlé de cet homme de Dieu, de Judas, qui a été envoyé à Samarie, justement, auprès du premier Jéroboam. Jéroboam premier, donc le premier roi de ce royaume divisé de Juda. Et cet homme de Dieu avait reçu une mission absolument claire de la part du Seigneur. Il était un homme de Dieu. Vous voyez, chapitre 13 du premier livre des Rois. « Voici, un homme de Dieu vint de Juda par la parole de l'Éternel à Bethel, et Jéroboam se tenait près de l'autel pour faire fumer l'encens. » Parce qu'il avait fait un veau d'or à Bethel, et un autre à Dan, qui était tout à fait au nord du pays, et on offrait des sacrifices à des veaux, alors qu'ils avaient connu le Seigneur. Ils étaient retombés à l'adoration du veau. Et un homme de Dieu vient et annonce ce qui va arriver à Bethel et à ces veaux-là. Et évidemment, Jéroboam, le roi, entend cela et veut que ses hommes saisissent le prophète, parce que quand on est prophète, vous savez, et qu'on doit apporter une parole de jugement, c'est toujours dangereux. Hein. Un prophète, c'est pas du tout sécurisant, cette vocation-là. Et immédiatement, Jéroboam étend le bras. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Son bras s'est desséché. Alors le pauvre Jéroboam qui voulait tuer le prophète, il lui dit « Prie pour moi !»« Mais prie pour moi !» Et évidemment, l'homme de Dieu n'a pas été tout à fait comme Jonas en disant « Tu n'as que ce que tu mérites !» Non, non, non. Il prie pour lui. Et son bras redevient sain. Alors immédiatement, quand même, Jéroboam est un homme qui sait vivre, il l'invite à dîner. C'est ça, un bon repas. Avant, il voulait le tuer. Maintenant, il l'invite à sa table. Hein. Et il a eu sa délivrance. Alors, il faut quand même être reconnaissant. Verset 6. Depuis le verset 6. Et le roi dit à l'homme de Dieu, « Viens avec moi à la maison et rafraîchis-toi. Je te donnerai un présent. » Et l'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'irai pas avec toi. Je ne mangerai pas de pain, ni boirai de l'eau dans ce lieu, car il m'a été commandé par la parole de l'Éternel disant, « Tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, tu ne t'en retourneras point par le chemin où tu es allé. » Et il s'en alla par un autre chemin. Donc, tout son itinéraire, tout son programme était donné. Il y a un tas de gens qui ne savent pas, qui tâtonnent sur ceci ou sur ça. Vous pouvez recevoir des directions très précises du Seigneur pour être sûr que vous êtes dans le vrai chemin. Mais voilà, on est des gens fatigués, alors on s'est arrêté. L'homme de Dieu s'est arrêté sous un térébin et il a bien résisté au roi Jéroboam. Mais voilà qu'un vieux prophète s'amène. Et puis, il l'invite, en lui disant, viens manger, viens, verset 15. Le vieux prophète a appris ce que cet homme de Dieu avait fait, avait dit, l'a appris par ses enfants. Alors, il le cherche. Et il lui dit, viens avec moi à la maison, mange du pain, verset 15. Et il dit, je ne puis retourner avec toi, ni rentrer avec toi, je ne mangerai pas de pain, je ne boirai pas d'eau avec toi dans ce lieu. Car il m'a été dit, et il répète, donc il la connaît sa leçon, hein, Tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, tu ne retourneras pas en t'en allant par le chemin par lequel tu es venu. Et qu'est-ce que le vieux prophète dit? Moi aussi je suis prophète. Ah, c'est ça qui est difficile. Hein? Quand quelqu'un vous dit, mais moi aussi je connais la pensée de Dieu. Et Dieu m'a dit, ou il dit plus exactement, un ange m'a parlé. Ah, attention, les vieux prophètes qui nous disent qu'un ange leur a parlé. Un ange m'a parlé par la parole de l'Éternel, disant, fais-le revenir avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Il lui mentait. Donc on peut être prophète et menteur. Souvenez-vous toujours de cela. Et il retourna avec lui et il mangea. Et puis alors, j'abrège parce qu'on ne veut pas sortir de l'histoire de Jonas, mais c'est quand même pour vous montrer la responsabilité du prophète. Eh bien, pendant qu'il mangeait, tout à coup, le prophète reçoit une parole en lui disant, parce que tu n'as pas obéi à la parole qui t'a été donnée, quand tu t'en retourneras, un lion te tuera. Ah, vous savez, hein, il faut prendre Dieu au sérieux. Ce n'est pas de la rigolade de vivre avec le Seigneur. Nous avons un grand Seigneur, un grand Dieu, mais attention. Alors, on peut peut-être résister aux offres du monde, mais c'est peut-être plus difficile de résister à des gens religieux qui vous disent, mais moi aussi je connais la vérité, je te dis cela au nom du Seigneur. Eh bien, méfiez-vous de ceux qui veulent toujours vous conseiller et vous dire autre chose que ce que le Seigneur vous a préalablement montré. C'est clair qu'il faut suivre la parole du Seigneur, il faut avoir une conviction. Je cite simplement cela pour vous montrer la responsabilité d'un prophète. Parce que même Moïse, on peut être un homme de Dieu, mais Moïse a eu un manquement aussi. Et vous savez ce qui lui est arrivé? Il n'a pas pu entrer dans le pays. Pourquoi? Parce qu'il a parlé légèrement de ses lèvres. Il n'a pas honoré Dieu. Et vous comprenez pourquoi Ésaïe, quand il est dans la présence de Dieu, la première chose qu'il comprend, il dit « Je suis un homme aux lèvres impures. J'ai besoin d'une purification de mes lèvres. » Parce qu'il se souvient que Moïse, pour avoir parlé légèrement, avoir dit quelque chose qui n'a pas honoré Dieu, il n'a pas pu entrer dans le pays de Canaan. Et il a demandé trois fois à Dieu, ce Moïse, le grand intercesseur qui avait tant prié pour le peuple, il a dit, « Oh Dieu, donne-moi la possibilité d'y entrer. » Dieu lui dit, « Ne me parle plus de cette affaire. Ne me parle plus de cette affaire. » Et il devra mourir. Donc, ne pensons pas, mais parce que moi, je suis un homme de Dieu, parce que Dieu m'a déjà beaucoup employé, il ne peut rien m'arriver. Justement, qu'il faut faire très attention. Même l'apôtre Paul, et ça, il en a béni Dieu, qui avait été élevé jusqu'au troisième ciel, c'est justement parce qu'il avait eu des visions extraordinaires qu'il lui a fallu quoi sur la terre quand il est revenu? Une écharde, un ange de Satan. Faut pas croire, mais maintenant que moi j'ai vu le Seigneur, j'ai des révélations intérieures, je suis garanti. Non. La chair reste la chair. Et tout le livre de Jonas va nous montrer combien cela est vrai. Et que nous avons besoin de ces disciplines du Seigneur. On l'a vu ce matin. Bienheureux l'homme que Dieu châtie, que Dieu reprend, parce qu'on est réellement ses fils. Alors, tout ceci, on en est qu'au verset 2, vous allez me dire, quand est-ce que vous allez arriver à la fin? Ben, je vous montre simplement cela. Moi, pendant un temps où j'étudiais à Lausanne, en Suisse, on avait le professeur Karl Barth, il devait nous parler sur l'épître aux Colossiens, il y avait 150 pasteurs qui l'écoutaient, et puis, pendant, il a commencé le matin, il a continuer l'après-midi, puis vous savez à quoi on est arrivé à la fin de la journée, il nous avait parlé de deux versets, saint et fidèle, c'est le commencement de l'épître aux Colossiens, au saint et fidèle. Alors les professeurs de théologie qui écoutaient ça, ils ont trouvé qu'il avait mal traité son sujet, vous n'avez parlé que de deux paroles, il a dit Dieu ne m'a pas donné plus, mais je vous promets que sur ce saint et fidèle, on avait reçu quelque chose, hein. C'était de la nourriture. Bien, là aussi, alors, quand on nous dit qu'on n'est pas nourri, mais arrêtez-vous, et puis laissez l'esprit vous conduire, questionnez, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un prophète, maintenant, vous savez bien ce que c'est, je l'espère. C'est un homme qui est disponible. Il est la bouche de Dieu. Il ne parle pas de lui-même, mais il transmet la parole qu'il a reçue. La parole de l'Éternel vint à Jonas, fils d'Amittaï, disant, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée devant moi. Lève-toi. » Ah, il est là peut-être dans le repos, il pense prendre peut-être sa retraite, bientôt. Ah non, c'est pas dans le moment de la retraite, hein. Lève-toi. Du reste, maintenant, il y a des pasteurs qui ont demandé en France, au synode, qu'on ne parle plus de pasteur retraité. Parce que on n'est jamais à la retraite. Hein. Est-ce qu'il y a une retraite pour le service de Dieu? Non. Alors, lève-toi. Il faut être disponible. Et puis, si Dieu nous dit lève-toi, c'est qu'il nous donnera la force de nous lever. Lève-toi, va. Et donc, Dieu a parlé, et il a parlé à plusieurs hommes. J'ai dit, il a parlé à Caïn, il a parlé à Noé, il a parlé à Abraham. Et Abraham aussi s'est levé. Il était à Ur de Chaldée, il est sorti. Lève-toi. La vocation prophète. Ésaïe a entendu ce mot aussi, lève-toi. Jérémie, Ézéchiel, tous les prophètes. Puis, ils ont su où ils devaient aller. Bien, Jonas a su où il devait aller. Où? C'est pas comme à Abraham. Il lui dit pas tout de suite, n'est-ce pas? Sors de ton pays pour aller vers le pays que je te montrerai. Mais il ne sait pas même encore où il va. Et il sortit ne sachant où il allez, mais Jonas était privilégié, il savait où il devait aller. Oui, mais alors, Ninive, alors évidemment, on pourrait vous parler longtemps de Ninive, c'était la capitale de la Syrie, et la Syrie, c'était un royaume ennemi d'Israël, ennemi des Juifs, mais qui avait fait bien souffrir les Juifs, et même le pays où vivait Jonas devait payer le tribut à Ninive, à la Syrie. Donc, Jonas n'aimait pas tellement aller à cette ville de Ninive. Et pourtant, crier contre elle, il en avait de l'amertume contre cette Ninive. Il aurait bien réussi à crier contre elle, dans un sens. Hein. Mais c'est que Ninive, c'était une ville terrible. Les Ninivites, alors vous avez ça, il faudrait lire le livre de Nahum, où nous voyons que le jugement est tombé finalement sur Ninive, 2 siècles après environ la prédication de Jonas, parce que, bon, il y a eu une repentance à Ninive, comme on va le voir, mais ça n'a pas duré, et finalement le jugement est tombé sur cette île. Mais dans le livre de Nahum, nous apprenons que cette méchanceté dont parle ici Dieu à Jonas, c'était le meurtre, le mensonge, la corruption et en particulier la violence, la méchanceté. Et qu'est-ce que vous lisez avant le déluge? Qu'est-ce qu'il y avait? La méchanceté. C'est très drôle. Donc les hommes n'avaient pas changé, c'était bien des descendants d'Adam. Et le Seigneur nous le montre dans le chapitre 6 de la Genèse, verset 5, juste avant le déluge. L'Éternel vit la méchanceté de l'homme, qu'elle était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Vous croyez que ça a changé? Regardez l'état du monde aujourd'hui. C'est bien le monde. C'est bien le monde. Méchanceté en tout temps. Eh bien, la ville de Ninive incarnait au fond tout ce qu'il y avait avant le déluge. Et on a dit, et on a retrouvé aussi, et on a cela dans des livres, quand ils avaient des prisonniers, vous savez ce qu'ils leur faisaient? Ils les écorchaient vifs et ils tapissaient leurs murs avec de la peau humaine, que ce soit des femmes ou des hommes. Vous voyez qu'Hitler n'avait rien inventé.
Hitler a fait la même chose. Hein. On a fait des abat-jour avec la peau de femme, etc. J'ai vu des habits faits avec la peau humaine. Je les ai vus de mes yeux. Eh bien, voilà ce qu'on a fait dans notre 20e siècle. Et les gens qui ont fait ça, c'était des baptisés au nom de Jésus-Christ. La méchanceté de l'homme était grande. Alors, vous pouvez peut-être un peu comprendre que Jonas ait eu un moment d'hésitation parce que aller à Ninive, bon, il veut bien crier contre cette ville, mais si on l'arrête, si on l'écorche, vous savez, quand on entend certaines réunions d'évangélisation, vous dites « Donnez-vous au Seigneur Jésus, la vie sera facile après ». C'est pas vrai. Je ne vous prêcherai jamais l'évangile comme ça. Parce que si vous voulez suivre Jésus, vous serez un disciple. Et un disciple, ça sera un témoin. Et qu'est-ce que veut dire témoin ? Martyr. Ça veut dire martyr. Et Pierre, quand il a eu le premier appel du Seigneur, il lui a dit quoi ? Toi, suis-moi. C'était tout à fait au début de sa vocation. Toi, suis-moi. Il était encore pêcheur. Et se levant, il le suivit. Et après sa restauration, vous savez, toute cette vie de Pierre, Pierre l'a renié, eh bien, quelle a été la dernière parole que Jésus lui a dit, une fois qu'il l'eut restauré, dans le chapitre 21 de Jean ? Il lui annonce qu'il devra mourir, qu'il sera martyr. Il lui annonce qu'il devra le glorifier dans sa mort. Et Pierre savait donc, avant que le Seigneur remonte au ciel, qu'il mourrait martyr. Il le savait. Alors il a demandé, mais à Jean, lui, qu'est-ce qui arrivera à son ami Jean ? Qu'est-ce que Jésus lui a dit ? Que, t'importe, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Donc, la vie de Pierre se passe au temps du Seigneur entre deux suis-moi. Le premier suis-moi, puis le deuxième suis-moi. Dieu parle une fois et deux fois. Mais il dit les mêmes choses. Hein. Il dit exactement les mêmes choses. C'est toujours suis-moi. Ce qui va arriver aux autres, ça ne doit pas me préoccuper. Alors, passons plus loin. Donc, Jonas s'est levé. Alors, on dit, mais c'est bien, il a obéi. Oui, mais il a obéi pourquoi ? Pour s'enfuir. Il obéit, il se lève pour se sauver. Il se lève pour se sauver. Alors, vous verrez, vous repasserez cela dans vos cœurs. Je vais maintenant vous indiquer seulement quelques jalons. Il se lève pour fuir. Et évidemment, avant lui, il y en a beaucoup qui ont voulu fuir. Le premier homme qui s'est enfui de la présence de Dieu, c'est qui ? C'est Adam et Ève. Ils ont fui sous les arbres, eux. Ils se sont cachés sous les arbres. Est-ce qu'on peut fuir sous les arbres ? Est-ce qu'on peut se cacher aux yeux de Dieu ? Et puis, il y en aurait d'autres. Caïn aussi s'est éloigné de la présence de Dieu. Loin de sa face. Pourquoi loin de sa face ? Quand on sait que d'autres personnes ont joui de sa face, qu'est-ce que c'est que la face de l'Éternel ? Être dans sa présence, voir sa face. Que dit le psalmiste ? Hein ? Voir sa face, c'est un rassasiement de joie. Sa face est un rassasiement de joie. Il veut fuir sa face. Il veut s'éloigner de l'Éternel. Alors qu'Élie, le grand prophète, dont il avait reçu bien des choses, eh bien, Élie disait, l'Éternel devant qui je me tiens. Élie, lui, c'était un homme qui se tenait devant l'Éternel. Il aimait la présence de l'Éternel. Jonas, il veut fuir loin de sa face. Et pourtant, vous me direz, mais ce Jonas, il connaissait les psaumes. Oui. Hein? Il n'y a qu'à voir sa prière dans le chapitre 2. Eh bien, tout en connaissant les psaumes, et quel psaume en particulier ? Le psaume 139. Hein? Où fuirais-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au Séol, au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour, si je m'en vais à Tarsis, ou bien ailleurs,
Si je fais ma demeure au bout de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Envers et contre tout, la main de Dieu est là. On ne peut pas fuir loin de sa face. Alors vous avez là tout le psaume 139 qui vient vous mettre de la lumière au sujet de s'enfuir. Alors Tarsis, on pense donc que c'était une ville près de, en Espagne. On ne peut pas s'enfuir de devant la face de l'Éternel. Mais vous voyez alors, quand on s'enfuit, on se lève pour désobéir. Il y en a un autre qui s'est levé aussi à un moment donné pour obéir. Et alors je voudrais que dès maintenant vous fassiez ce parallèle entre un Jonas désobéissant qui se lève pour désobéir et le Fils de Dieu obéissant qui à un moment donné s'est levé pour obéir quand il est venu s'incarner pour nous apporter le salut. Car il y a un plus grand que Jonas. Un plus grand que Jonas. Alors, c'est un parallèle extraordinaire. Il est dit que quand on veut fuir loin de sa face, eh bien, vous verrez, vous avez remarqué le mot « il descendit ». Quand on s'éloigne de Dieu, on descend. Et vous verrez plusieurs fois le mot « il descendit ». Il descendit et puis étant descendu au fond du bateau. Mais il ne sait pas qu'il devra descendre encore plus bas, jusqu'où? Au fond de la mer. Hein? Ah, vous pensez que la descente, ça va s'arrêter à la cale du bateau? Non. Tu iras jusqu'au fond du gouffre, puisque tu veux faire ta volonté. Tu iras jusqu'au fond du gouffre. Et alors, tu connaîtras le psaume hein, du fond de l'abîme, le De Profundis. Hein? Des profondeurs de l'abîme, je crie. Hein. Eh bien, Jonas est descendu. Il est descendu à Joppé, qui est la ville de Jaffa, dans les suburbs de Tel Aviv, de l'actuel Tel Aviv. Puis alors, c'est ça, quand on désobéit, donc on descend, vous l'avez remarqué, mais voilà, on trouve. Il y a telle voie qui semble droite à un homme, et pourtant, son issue est une voie de mort. Vous avez ça dans le chapitre, dans les Proverbes, au chapitre 14. On se dit, mais je suis quand même, c'est pas si mal. Puis enfin, cette voix que j'ai entendue, c'est vraiment la voix de Dieu. Puis tout à coup, bien, voilà que quand on descend, quand on est dans le chemin de la désobéissance, il y a des choses qui nous aident à désobéir encore. Voilà qu'on trouve un navire. J'avais pensé à l'air Tarsis, puis voilà, justement, il y a un navire pour Tarsis. Mais c'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, j'ai un signe là. Parce que j'aurais pas trouvé de navire sans ça. Mais voilà maintenant mon navire, je suis sûr que c'est ça. J'ai un signe. Attention, hein. Faites attention. Parce que quand on trouve trop facilement, c'est pas le vrai chemin. Il trouve un navire pour Tarsis. Puis il a donné le prix de sa place. Ah, le monde, hein, il fait payer. C'est pourquoi Jésus dit, moi je ne vous donne pas comme le monde donne. Mais quand on veut aller avec le monde, on paye. Et il faut des moyens quand on veut vivre selon le monde. Parce que, évidemment, le monde exige. Le monde fait croire qu'il vous donne, mais au fond, il vous prend. Et il vous possède. Et ça ne vous dit rien, individuellement? Ah, le monde, il coûte cher. Il coûte cher, le monde. Alors on paye le prix de sa place. Pour avoir une place dans ce monde, pour être bien vu, pour ne pas avoir de difficultés, on paye. Hein. Puis comme ça, on n'aura pas d'ennui. On n'a pas de dette comme ça aussi, mais c'est très bien. Hein. Il paye le prix de sa place. Puis alors, forcément, on descend avec eux, on descend encore. Il descendit avec eux pour aller à Tarsis. Deux devant la face de l'Éternel, voilà que c'est renouvelé ça. Alors, je voudrais maintenant que vous commenciez ce parallèle. Le fils unique s'est levé, lui, pour obéir. Qu'est-ce qu'il a dit à son père? Voici, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Psaume 40 et puis Hébreu 10. Le plus grand que Jonas, lui, il est descendu. Où? À Bethléem. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Un navire? Une crèche.
qui a trouvé une place, il n'y avait pas de place. Quand on fait la volonté de Dieu, on n'a pas de place. On n'a pas de place. Tandis que Jonas, il a une place, il trouve un navire, on ne trouve pas de navire. Jésus n'a pas trouvé de place. Puis Jésus ne pouvait pas payer. Les parents de Jésus, Joseph et Marie, quand ils ont offert l'offrande, selon la loi de Moïse, c'était l'offrande de qui ? Du pauvre. Hein? Ils ont offert l'offrande du pauvre, dans Luc. Et le plus grand que Jonas, il a dû fuir aussi, il a su ce que c'était que la fuite. Où ? En Égypte, parce qu'on a voulu le tuer. Il y a eu une fuite aussi. Mais il est parti avec qui ? Avec Joseph et Marie, avec eux, le petit enfant. Il a été conduit. Mais est-ce qu'il est remonté d'Égypte ? Oui, lui, il est remonté d'Égypte. Puis alors, dans son ministère, si vous voulez aller jusqu'au bout, qu'est-ce que vous voyez ? Lui aussi a pris un bateau. Il a eu besoin d'un bateau. Dans Marc, chapitre 4, il y a le bateau aussi. Hein? Il y avait une telle foule qu'il demande la barque de Pierre. Et il prêche de la barque. Et puis après, il est dit dans ce Marc 4, ceux qui ont pu le lire, ils l'ont pris comme il était. Ils l'ont pris comme ça. Hein? Il n'a pas payé. Il n'a pas eu besoin de payer son bateau, lui. Quand on est dans la volonté de Dieu, tout se simplifie. Et puis, vous voyez que Jésus aussi, il s'est couché à la poupe, puis c'est endormi. Alors là, on pourrait parler des deux sommeils, hein, du sommeil de Jonas et du sommeil du plus grand que Jonas. Et pour les deux bateaux, il y a eu une tempête, hein, pour le plus grand que Jonas et puis pour Jonas. L'Éternel envoya un grand vent sur la mer et il y eut une grande tempête sur la mer de sorte que le navire semblait vouloir se briser. Et les marins eurent peur. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans l'autre nacelle ? Quand il y a la tempête, qu'est-ce qui a peur ? Les disciples. Et alors, les disciples réveillent le Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils lui disent ? Maître, ne te mets-tu pas en peine, nous périssons. Et ici, c'est le capitaine, le maître du bateau, qui descend, parce que Jonas est allé dans le fond du bateau, il s'est endormi profondément, et c'est le maître aussi, des rameurs qui s'approchent de lui et qui lui dit, alors il le questionne, et là, vous pouvez voir le témoignage de Jonas. Jonas se réveille. Le plus grand que Jonas a été aussi réveillé. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a calmé la tempête. Puis alors, qu'est-ce que les disciples ont dit ? Qui donc est celui-ci ? Qui est celui qui dormait là à la poupe pendant la tempête ? Et chez Jonas, lui, alors, il était là, descendu au fond de la cale, et il dormait. De quel sommeil ? Là, vous pourriez faire une étude aussi qui vous nourrirait sur le sommeil dans l'Écriture. Il y a eu le sommeil d'Adam, hein, qui a été donné par Dieu. Il fit tomber sur lui un profond sommeil. Il y a le profond sommeil d'Abraham, dans la question de l'alliance, du sacrifice, dans le chapitre 15 de la Genèse. Puis, il y a évidemment le sommeil de l'ivresse, qui est le sommeil de qui ? De Noé, n'est-ce pas, avec tous ses inconvénients. Et il y a différents sommeils. Il y a le sommeil qui est tombé sur Saül. Dans le camp de Saül, le Seigneur fait tomber un profond sommeil. Et le sommeil de Jonas, c'est un sommeil de quoi, au fond ? Vous pensez que c'était un bon sommeil ? C'est un sommeil de tristesse. Il y a d'autres sommeils dans l'Écriture. Le sommeil de la tristesse. Qui est-ce qui a connu ce sommeil de la tristesse ? L'apôtre Pierre. Ils étaient endormis de tristesse. Au fond, quand on ne fait pas la volonté de Dieu, peut-être qu'on dort, hein, mais aussi, c'est un sommeil de tristesse. Et alors, voilà que le capitaine, le maître des rameurs dit, que fais-tu là, dormeur ? Lève-toi, crie à ton Dieu, peut-être pensera-t-il à nous? Parce que les marins, eux, maintenant dans la détresse, chacun crie à son Dieu. Comme nous le disions ce matin, quand on est dans la détresse, il n'y a plus d'athéisme. Chacun a son Dieu. Un homme dans la détresse, il dit mon Dieu. On crie à son Dieu. Alors on demande à Jonas de crier au sien. Peut-être Dieu pensera-t-il à nous et nous ne périrons pas. Mais les disciples, ayant le plus grand que Jonas, ils se sont adressés directement à lui. Et alors, le verset 7, vous le lirez vous-même, les païens, ils n'ont pas d'autre moyen que ce moyen-là de jeter le sort. Je dirais que Dieu employait ce moyen pour eux, alors qu'ils pouvaient se révéler directement par un prophète à Israël. Mais là, eh bien, les païens jettent le sort. Dieu dirige le sort. C'est ce qu'il est dit dans Proverbe chapitre 16. On jette le sort au giron, verset 33, mais la décision vient de l'Éternel. Qu'est-ce qui conduit le sort? C'est le Seigneur. Mais alors, faites attention, ne dites pas, ben moi aussi, pour savoir ce que j'ai à faire, je m'en vais tirer au sort ou jouer à pile ou face. Il y a des chrétiens qui font cela, pour connaître la volonté de Dieu. Ils décident, si c'est pile, je ferai ça, si c'est face, je ferai autrement. Puis, comme ça ne convient pas toujours, ils refont deux fois. Nous sommes des tordus. C'est vrai ou c'est faux? Alors, n'employez pas ces moyens mécaniques pour connaître la volonté de Dieu. Priez. Dieu vous révélera ses pensées. Mais pour des païens, eh bien, vraiment, le sort peut aller parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Ils veulent tirer au sort. Pourquoi? Pour savoir à cause de qui ce malheur nous arrive. Vous voyez l'ignorance des païens. Qu'est-ce qu'ils auraient dû se dire? C'est à cause de nous tous. Hein? À cause de qui? Il y en a un qui est plus coupable que les autres. On est tous les mêmes. Et s'il arrive une tempête, c'est à cause de nous tous. Mais vous voyez, même chez les païens, on pense qu'il y a un autre qui est pire que nous. Et que si telle chose nous arrive, c'est à cause d'un autre. C'était bien que la pensée de Pierre, quand même tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Et pourtant, on est tous les mêmes. Mais les païens n'avaient pas encore cette révélation de ce qu'ils étaient eux-mêmes. Alors, ils pensent qu'il y en a un qui est plus coupable que les autres. Mais quand ils tirent au sort, le sort tombe sur Jonas. Le sort tombe sur Jonas. Et mes amis, c'est quelque chose. Je compte là, si je coupe un petit peu les phrases, il y a au moins 7 questions qui sont posées à Jonas quand on le ramène sur le pont et que maintenant le sort est tombé sur Jonas. Qu'est-ce qu'on lui demande? Jonas est obligé maintenant de témoigner sur le bateau. Dans ce monde, il doit témoigner. Il est allé avec le monde et maintenant, il n'a pas rendu le témoignage qu'il devait. Eh bien, maintenant, il doit témoigner. Alors, sur le pont, en face du monde, Jonas est questionné. Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Première question. Deuxièmement, quelle est ton occupation? Troisièmement, d'où viens-tu? Quatrièmement, quel est ton pays? Cinquièmement, de quel peuple es-tu? Sixièmement, pourquoi as-tu fait cela? Et septièmement, que te ferons-nous? Donc, c'est un questionnaire complet. Si c'est toujours celui de la plénitude, on peut voir là-dedans cette question. Alors, quelles sont les réponses de Jonas? Versets 9 Je suis hébreu. Et qu'est-ce qu'il dit? Je crains l'Éternel.
Tu crains l'Éternel? Mais oui, je crains l'Éternel.
Mais tu lui désobéis?
Alors, le monde ne comprend pas. Vous dites que vous êtes des croyants, puis vous êtes avec nous.
Vous êtes dans le même bateau que nous, puis même là, vous dormez, tandis que nous prions nos dieux. Alors, vous allez vous-même vous reposer ces questions. Qu'est-ce que vous répondriez? L'apôtre Pierre nous dit, soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Est-ce que vous avez une espérance dans ce monde où l'on dit, mais enfin, qu'est-ce qui va arriver? Mais prenez maintenant Jonas, il rend témoignage à qui? Au Dieu créateur, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre, ce Dieu dont nous avons parlé ce matin. Alors, il y a quelque chose de très beau, ce témoignage de Jonas les a quand même impressionnés, et les hommes eurent une grande frayeur. Alors ils lui demandent, mais qu'est-ce que tu as fait? Car les hommes savaient qu'ils s'enfuyaient de devant la face de l'Éternel, car il le leur avait déclaré, vous voyez, il avait quand même dit, parlé de sa situation, avant d'aller se coucher au fond du bateau. Alors il lui demande, mais que te ferons-nous? Et je voudrais que vous continuiez de faire ce parallèle. Quand Jésus est dans sa barque, a repris le vent et la mer, on a demandé, mais qui est cet homme? Et alors vous pourriez aussi lire l'évangile de Jean. À plusieurs reprises, on a demandé à Jésus, mais qui es-tu? On lui a dit, d'où viens-tu? Est-ce qu'il venait de Nazareth? Non, il disait qu'il venait du ciel, qu'il connaissait le Père, qu'il était le Fils de Dieu. Jonas a dit, je suis hébreu, ça c'est la vérité. Mais le plus grand que Jonas, oui, il était juif, mais par sa naissance, puisqu'ils étaient incarnés en prenant comme mère une femme juive, née de la chair, mais il est né d'une femme juive. Mais lui aussi, le Seigneur, dans ce monde, il a dû répondre à toutes ces questions. Qui es-tu? Quelle est ton occupation? Il était occupé de quoi, Jésus? Dès son enfance. Des affaires de son père. Quelles étaient les occupations de Jonas? Il était prophète. Et il aurait dû être aux affaires de son père. Mais là, il était en touriste. Quand on est à la retraite, on peut commencer à faire du tourisme. C'était le touriste Jonas. Mais pourtant, il craignait le Dieu créateur, Elohim, le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Il rend donc à ces païens, il rend témoignage du Dieu créateur. C'est ce qu'a fait Paul aussi, quand il a dû parler aux païens, il leur parle d'abord du Dieu créateur. Le Dieu créateur, on ne peut pas tout dire. Mais enfin, il présente Dieu comme étant le seul vrai Dieu, le Dieu créateur. Jésus, lui, le plus grand que Jonas, comment présentait-il le Dieu créateur? Comme étant son Père. Comme étant son Père. Et il révélait le Père. Alors, pour terminer, vous pouvez méditer maintenant sur ce que ces païens ont fait quand ils ont entendu le témoignage de Jonas, et que Jonas tout à coup leur dit, bien, ce qu'il faut me faire, c'est quoi? Verset 12. Prenez-moi et jetez-moi à la mer. Et la mer s'apaisera pour vous, car je sais. Donc la parole l'a atteint jusqu'à la moelle. Je sais que c'est à cause de moi que cette tempête est venue sur vous. Et il comprend qu'il doit mourir. Alors, que vont faire les païens vis-à-vis de Jonas? Est-ce qu'ils disent, c'est réglé alors? Il y a. On se passe par tout bord. Non. Les hommes ramèrent pour gagner la terre. Ils n'ont pas voulu le tuer. Les païens n'ont pas voulu tuer Jonas. Mais quand le plus grand que Jonas a été au milieu des Juifs, qu'est-ce qu'on a fait? Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Tandis que les païens, verset 14, ils crièrent à l'Éternel et dirent, « Ah, Éternel, que nous ne périssions pas, nous t'en prions, à cause de la vie de cet homme. » La vie de Jonas a été précieuse aux yeux des païens. Mais la vie du Fils de Dieu, est-ce qu'elle a été précieuse aux yeux des Juifs? Non. Vous vous rendez compte, le parallèle que vous pouvez faire, n'est-ce pas, et tout ce que vous pouvez recevoir intimement dans votre cœur, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il faut apprendre à connaître le Seigneur, le plus grand que Jonas, à voir comment lui a été traité. Les païens ont mieux traité Jonas que les Juifs ont traité le Seigneur. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais eux, les païens, eh bien, quand ils ont dû mettre à exécution, parce que Jonas leur avait dit, la tempête s'apaisera pour vous, il faut qu'il y ait un sacrifice. Eh bien, sacrifiez-moi. Mais ils demandent, ne mets pas sur nous le sang innocent. Les Juifs ont dit que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Car, vous voyez, il est dit, Éternel, tu as fait comme il t'a plu. Hein? Tu fais ce que tu veux, comme on l'a vu ici. L'Éternel est grand, que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Les païens aussi savent que Dieu fait ce qu'il veut malgré tout. Alors, ils prirent Jonas, le jetèrent par-dessus bord. Ils doivent consentir. Pour être sauvés, il faut la mort. C'est cela que vous allez bien comprendre, que je dois comprendre à nouveau. Pour que nous soyons sauvés, il faut la mort. Mais pas la mort d'un Jonas pour nous. Qu'est-ce qu'il fallait? La mort de Jésus. Si Jésus n'avait été que le grand prédicateur des paraboles, nous serions tous perdus. Il a fallu qu'il meure. Et si vous voulez être sauvés, vous devez accepter la mort de l'innocent pour vous. Vous n'êtes sauvés que par cette substitution. Vous deviez mourir. Jonas a compris que lui, il devait mourir pour le salut des païens. Et nous, ce que nous devons comprendre aussi, c'est que si nous voulons être au service de Dieu, nous devons accepter de mourir. C'est dans le programme. Nous devons accepter la souffrance, nous devons accepter de mourir. Et alors, quel est le résultat dès que Jonas a accepté et jeté par-dessus bord? Eh bien, la tempête s'arrête, comme il l'avait dit, il est vraiment prophète, hein, il l'a dit, la tempête s'est arrêtée, et le résultat, c'est que les marins païens ont été sauvés. Ils sont devenus adorateurs, là où il y a un vrai témoignage, un témoignage de renoncement, parce que pour qu'il y ait du fruit dans notre vie, il faut renoncer à soi. Et il faut accepter la mort à nous-mêmes, comme Jonas a dû accepter la mort à lui-même, jeté par-dessus bord. Mais Seigneur, oui. Ils deviennent des adorateurs, les hommes craignirent beaucoup l'Éternel, et ils offrent un sacrifice. Offrir un sacrifice, c'est devenir un adorateur. Ils sacrifient au Seigneur, au vrai Dieu, au Dieu d'Israël, au Dieu de Jonas, et puis ils firent des vœux. Quels sont les vœux que l'on fait quand on est sauvé? On est sauvé pour quoi? Pour s'installer? Sauvé pour servir. Ils deviendront, ces païens, des serviteurs de Dieu. Nous allons voir d'autres leçons que ce chapitre nous donne. Mais j'ai simplement voulu essayer de tracer déjà un parallèle entre Jonas, désobéissant, qui s'est levé pour désobéir et fuir, et le Fils unique de Dieu, qui s'est levé dans le ciel pour obéir, qui lui aussi est descendu. Et quelle descente, quelle humiliation. On a parlé ici même des 7 degrés d'humiliation du Seigneur, et il est descendu plus bas que Jonas, puisqu'au fond Jonas, en tombant dans la mer, a retrouvé le plus grand que Jonas, qu'il a sauvé et qu'il a fait remonter des eaux profondes par sa résurrection. parce que c'est grâce à la résurrection de Jésus que nous aussi nous sommes vivants, que nous sommes sauvés. Alors, en conclusion, je demanderai cette question, est-ce que je suis un témoin obéissant, moi? Vous avez vu que la présence d'un témoin désobéissant a mis en péril la vie des païens sur ce bateau-là. Mais si vous avez pu jeter un coup d'œil, et vous pouvez relire ça cet après-midi, au chapitre 27 des Actes, vous voyez l'apôtre Paul, témoin obéissant, qui se trouve sur un bateau sans payer. Hein. Est-ce que Paul a payé le prix de sa place pour aller à Rome? Non, il voyage gratuitement parce qu'il est prisonnier. C'est un moyen, ça, de voyager gratuitement. Il est prisonnier, on le conduit chez César, gratuitement, voyage gratuit, parce qu'il est dans la volonté de Dieu. Mais son obéissance lui donne le salut de tous les marins qui allaient être perdus, eux aussi allaient être perdus, le navire allait être brisé, mais Paul peut se lever dans la tempête et leur dire, le Dieu à qui je suis. Il ne s'est pas éloigné de Dieu, lui. Le Dieu à qui j'appartiens, lui n'a pas résisté aux aiguillons. Il te serait dur de te regimber contre les aiguillons. Paul ne s'est pas regimbé. Il est dans la volonté de Dieu. Mais au sein de la nuit, au sein de la tempête, le navire craque, va se briser. Et il est là, calme. Il leur dit manger, puis il leur montre qu'on peut manger, même si on va prendre un bain tout de suite après. Il n'est pas comme nos grands-mères qui nous disaient qu'il fallait attendre au moins 2-3 heures avant de nous jeter à l'eau. Eh bien, Paul sait déjà ça, qu'on peut être jeté à l'eau sans qu'il y ait des conséquences. Il leur dit, mais le Dieu à qui je suis m'a dit, c'est lui qui me donnait tous ceux qui étaient dans ce navire. Pas un cheveu de votre tête ne tombera. Voilà, vous valez mieux que les passereaux, puisque pas un passereau ne tombe en terre sans la volonté de Dieu, que rien nous arrive. Alors, est-ce que nous sommes témoins obéissants ou témoins désobéissants? Par notre désobéissance, nous faisons perdre les âmes, qui sont pourtant chères au cœur de Dieu, mais par l'obéissance que nous avons, nous pouvons être aussi employés pour le salut de beaucoup d'âmes. Est-ce que vous avez des questions? Vous savez, on n'a fait que survoler le texte, mais reprenez ces questions, puis donnez-y des réponses. Quelle est notre responsabilité à nous, les chrétiens, dans ce qui vient sur le monde? Est-ce que nous sommes conscients que nous avons une responsabilité? Est-ce que ce n'est pas souvent à cause de nous que les gens ne croient pas? Quand ils regardent nos vies, est-ce que ce sont des vies de délivrance? Est-ce que ce sont des vies rayonnantes? Le jugement de Dieu doit commencer par la maison de Dieu. Quelle est ton occupation? Qu'est-ce qui nous occupe en premier lieu? Gagner de l'argent d'abord? Amasser, amasser encore? D'où venons-nous? Je viens du monde? Je viens d'en haut? Que disait Paul? Notre bourgeoisie est dans les cieux. Nous sommes des parachutés du ciel. Oui, pour rendre témoignage, pour un temps. Pour établir une tête de pont, pour que le Seigneur vienne. Quel est ton pays? Qu'est-ce qu'on peut dire? Mon pays? De la Suisse? Quelqu'un m'a écrit que la Suisse, ce n'était pas le paradis. C'est vrai. Mon pays? C'est le ciel. La maison du Père, là j'ai une place. Puis elle a été payée pour moi par un autre. De quel peuple es-tu? Je suis Québécois, sur l'aile. Il y en a qui ont un plaisir de pouvoir dire ça. Oui, le Seigneur le sait aussi. Fils d'Amitaï, connaît nos racines. Mais de quel peuple es-tu? Qu'on est du peuple de Dieu, qu'est-ce que c'est l'Église? La vraie Église, qu'est-ce que c'est? C'est le peuple de Dieu, qui est formé des rachetés du Seigneur. Et qu'est-ce que sont les rachetés du Seigneur, ce sont les enfants de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils sont les uns pour les autres? Des frères, parce qu'ils vont dans le même club? Parce qu'ils ont la même étiquette religieuse? Parce qu'ils sont nés de nouveau. Alors posons-nous toutes ces questions. Et puis, est-ce que nous sommes prêts à renoncer pour que le Seigneur puisse faire tout ce qu'il veut avec nous? On est de nouveau comme Marie devant l'ange qui lui dit, qui attend la réponse, est-ce que vous avez un oui pour Dieu? Est-ce que nous pouvons dire qu'il me soit fait selon ta parole? Encore une fois, est-ce qu'il y a une question? On aura l'occasion d'en parler, mais... Ça va? Ça vous intéresse? Ou bien vous pensez avoir une indigestion? Et on sait des fois qu'il y a de petits appétits. Et c'est très drôle pour vous faire rire un peu, pour vous préparer votre digestion pour le repas. Il y avait dans une salle un prédicateur qui parlait justement sur Jonas. Et puis, il y avait dans l'auditoire quelqu'un qui... Je ne sais pas comment, si vous le dites, ça tapait des clous. Comment? Il s'endormait. Et puis, au moment où le prédicateur dit... Que fait-il la dormeur? Il a cru que c'était pour lui. Quoi? Hein? Réveil brutal. Que fait-il la dormeur? Il s'était senti concerné. Est-ce que nous ne nous sentons pas un petit peu concernés? Non, pas parce qu'on peut très bien s'endormir parce qu'on est fatigué. Et puis, le prédicateur peut être rasoir. Alors, Seigneur, nous voulons te demander que ce soit ta parole qui nous réveille, qu'elle aille jusqu'au fond de nos cœurs, et que nous soyons bénis par cette parole, que pour des cœurs desséchés, elle soit une rosée, que pour des cœurs attiédis, elle soit un feu qui brûle. Pour des cœurs endurcis, incrédules encore, elle soit comme un marteau. Et que pour ceux qui sont peut-être encore dans l'ombre, dans des ténèbres, qu'elle soit comme une lampe, comme une lumière, qui éclaire notre véritable état pour la gloire du Père. Au nom du Fils et par la puissance du Saint-Esprit.